Bonjour à chacun, bienvenue. Si jamais il reste de la place devant, les enfants aussi, bienvenue. Ça nous fait plaisir de partager ce début de culte avec vous. Même s'il n'y a pas toujours des histoires pour vous, des choses comme ça, c'est une joie pour nous de vous voir en tout cas et de pouvoir vivre ce temps ensemble. Donc bienvenue aux petits, bienvenue aux grands, petits et grands, que ce soit en âge, en taille, petit et grand dans la tête, ou même petit et grand dans la foi. Soyez les bienvenus et que vous puissiez vous sentir à l'aise. Alors, je vous accueille au nom de l'équipe qui a préparé ce culte. Mais petits et grands, que vous puissiez vous sentir aussi appelés, renouvelés et aimés. Au nom de celui qui nous accueille chacun, tel que nous sommes, au nom du Christ, le Fils du Dieu Très-Haut, le ressuscité, c'est-à-dire celui qui suscite à nouveau. Et alors, petit ou grand, je ne sais pas comment vous vous sentez, en général dans votre vie ou ce matin en particulier, mais une chose que je sais, c'est que même quand on est grand, ou en tout cas qu'on se sent grand, il y a bien des situations qui nous ramènent un peu sur terre, des moments où on se sent justement tout petit. Et heureusement, parce que de toute façon, Jésus nous appelle à questionner et même à renverser certains principes. Lui qui dit à ses disciples que le plus grand parmi vous soit comme le plus jeune, justement le plus jeune qui était moins considéré. Que celui qui gouverne soit comme le serviteur. À votre avis, qui est le plus grand? Celui qui est assis à table ou celui qui sert? N'est-ce pas celui qui est assis à table? C'est comme ça que Jésus répond, c'est comme ça qu'on répond. Et pourtant, moi, au milieu de vous, je suis comme le serviteur. Alors je vous propose de nous tourner vers ce Dieu qui nous accueille, petit, grand, ce Dieu qui nous invite à renverser les valeurs du monde. On prie. Seigneur, tu nous as précédés ce matin parce que, comme nous l'avons fêté le week-end passé à la Pâque, tu as tout donné pour nous et tu es sorti vainqueur du tombeau. Tu veux susciter en nous ta vie. Une vie toujours nouvelle qui nous permet de passer de nos obscurités, de ce qui nous empoisonne, à ta lumière, à ta vie. Tu nous rétablis à ton image, même si ça prend du temps et que ça ne se fait pas tout seul. Alors que tu nous conduises ce matin sur ce chemin de vie sur lequel tu nous appelles, et merci de pouvoir partager ce temps tous ensemble ici, à Mérin. Que tu bénisses aussi ceux qui nous sont chers et qui ne sont pas présents parmi nous ce matin. Merci aussi pour ton peuple que tu appelles ailleurs et qui se rassemble en ton nom. Que tu fortifies ton Église. Et nous te prions qu'aujourd'hui particulièrement, tu nous conduises dans ce temps, dans ta présence. Que tu nous rendes attentifs à toi, que tu nous instruises et transformes nos pensées. Amen. Alors dans nos vies personnelles, nous avons des calendriers, des étapes, des fois des bornes. Ça peut être lié aux saisons. Hein, par exemple, là c'est le début du printemps, on recommence à sortir, on s'habille plus léger. Au niveau professionnel ou de la vie d'étudiant, il y a les périodes d'examen. Il y a des fois des périodes avec des bilans à rendre. C'est le stress pour cette période-là, les évaluations annuelles à passer, avec peut-être une augmentation, ce genre de choses. Donc il y a des fois des périodes plus lourdes tout au long de l'année. Et en général, une fois que ces périodes sont passées, la pression elle retombe un peu. On se réjouit de pouvoir passer à la suite. Et dans notre foi, notre vie d'Église, Pendant dans le calendrier chrétien, on a aussi nos fêtes, on a Noël, qui donne plutôt une image de joie, de lumière, de paix. Et là, on vient de passer Pâques. Pâques, sommet de la souffrance et de l'abandon pour le Christ. Et pourtant, il s'ensuit la victoire et la délivrance par la résurrection. Ça aussi, c'est une étape, une borne qu'on est invité à passer, à vivre. Mais une fois qu'on a passé cette étape, vers quoi est-ce qu'on se dirige? Et pour les disciples, ceux qui côtoyaient Jésus, comment est-ce que ça allait continuer pour eux? Tout semble s'être arrêté à la mort de Jésus. Mais comment est-ce que les choses sont reparties à sa résurrection? Et bien, ce matin, nous pourrons faire justement un bout de chemin pendant ce culte, au travers de la louange, au travers de la prédication, des différents éléments qu'on va vivre pendant ce culte. Un cheminement après cette Pâque, vers quoi est-ce qu'on se dirige? Alors, on va continuer maintenant avec un temps de louange. Merci aux musiciens, à David, de nous conduire durant ce temps.
Avec la terre entière, nous proclamons ta bonté. À genoux devant ta majesté, nous bénissons ton saint nom. Tous unis devant ta sainteté, tous émus, nous t'adorons. Dans la maison du Père, nous voici tous rassemblés avec la terre entière. Nous proclamons ta bonté. Alléluia, nous reconnaissons ta grandeur, ta majesté. Tous unis, nous réjouissons. Nous célébrons ta bonté.
Oui, nous te bénissons, libérateur, nous t'adorons, notre roi. Et nous sommes réunis devant Dieu pour lui rendre un culte. Les disciples aussi de Jésus se sont réunis à plusieurs reprises, juste après la résurrection, pour être ensemble, hein, pour se remémorer ce qu'ils avaient vécu avec le Christ, pour se souvenir des promesses que le Christ leur avait faites, pour partager peut-être leur ressenti lorsqu'il a été arrêté, jugé, crucifié. Et puis aussi pour dire ensemble comment ils ont tressailli lorsque Jésus est apparu au soir du troisième jour. Et puis dans ce rassemblement, les disciples, ils attendaient une suite. Ils attendaient la réalisation d'une promesse. Et puis une de ces promesses est révélée dans Ésaïe, que je vais vous lire maintenant. C'est Ésaïe au chapitre 25, versets 6 à 9. Sur le mont Sion, le Seigneur de l'univers offrira à tous les peuples un banquet de viande grasse arrosée de vin fin. Des viandes tendres et grasses, des vins fins bien décantés. C'est là qu'il supprimera le voile de deuil que portaient les peuples, le rideau de tristesse étendu sur toutes les nations. Il supprimera la mort pour toujours. Le Seigneur, Dieu, essuiera les larmes sur tous les visages. Dans l'ensemble du pays, il enlèvera l'affront que son peuple a subi. Voilà ce qu'a promis le Seigneur. On dira ce jour-là, c'est lui qui est notre Dieu. Nous comptions patiemment sur lui et il nous a sauvés. Oui, c'est dans le Seigneur que nous avons mis notre espoir. Quelle joie, quelle allégresse de l'avoir comme sauveur. Alors mon souhait, c'est qu'on puisse vivre ces promesses. Et ce matin, je pense particulièrement à nos aînés dans la communauté, parce que je crois que vous êtes particulièrement en souffrance ces temps, avec beaucoup de gens qui sont malades. Et j'ai eu à cœur, en préparant ce temps de louange, de vraiment avoir cette pensée pour vous, pour les aînés. J'ai envie de vous dire que cette promesse d'Ésaïe, elle est pour tout le monde, mais pour vous en particulier ce matin. Et je relis juste une partie de cette promesse. Ne craignez pas, le Seigneur essuiera les larmes sur vos visages. Chantons Christ est roi, proclamons-le tous ensemble.
Dans son amour, Dieu le Père envoya son Fils Jésus pour accorder la lumière à tous ceux qui sont perdus. Il descendit sur la terre, mais les hommes l'ont rejeté. Ils l'ont cloué au calvaire. Mais Christ est ressuscité. Christ est roi, Christ est roi, Christ est roi des rois. Christ est roi, Christ est roi, Christ est roi. De tous les âges porte son nom sur leur cœur. Dans l'épreuve, ils gardent courage, car leur Dieu est un sauveur. Ils vont par toute la terre annoncer le Fils béni, fiers de porter la bannière sur laquelle il est écrit. Christ est roi, Christ est roi, Christ est roi des rois. Christ est roi, Christ est roi, Christ est roi. Rassemblés par lui, ils sortiront de leur tombe, car en lui ils ont la vie. Ils formeront un royaume, la terre sera leur pays. Leur hymne sera un psaume à la gloire du Messie. Christ est roi, Christ est roi, Christ est roi. grandes et merveilleuses sont toutes tes œuvres, ô Seigneur notre Dieu tout-puissant, juste et véritable dans toute ta volonté, toi le roi éternel qui sur la terre et dans le ciel est semblable à toi. Tu règnes sur tout l'univers, Dieu d'Israël. Un jour devant toi, tout genou fléchira, toute langue te bénira. Alléluia, 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 amen. La 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 la. La 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 la. Sont toutes tes œuvres, ô Seigneur, notre Dieu tout-puissant, juste et véritable, dans toute ta volonté, toi le roi éternel, qui sur la terre et dans le ciel est semblable à toi. Tu règnes sur tout l'univers, Dieu d'Israël. Un jour devant toi, tout genou fléchira, toute langue te bénira. Alléluia, 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 amen. La 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 la. La 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 la.
Oui Seigneur, nous pouvons chanter, tressaillir d'allégresse. Nous pouvons nous réjouir de savoir que tu es le ressuscité. Malgré les difficultés qu'on traverse, on peut le dire, on peut avoir cette certitude et cette espérance parce que tu nous en as fait la promesse. Donne-nous de vivre cette réalité dans la joie, dans l'espérance que tu nous donnes. Merci pour tes promesses. Merci parce que tu reviens bientôt. Merci parce que tes bontés ne sont pas épuisées. Chaque matin, elles se renouvellent. Alors Seigneur, je veux demeurer dans ta gloire et dans ta présence chaque jour.
Une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter dans la maison du Seigneur tous les jours de ma vie. Sa beauté, apprendre à le connaître tel qu'il est vraiment. Une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter dans la maison du Seigneur tous les jours de ma vie, admirer sa beauté, apprendre à le connaître tel qu'il est vraiment.
Habiter dans la maison du Seigneur et le connaître, voilà quelque chose que j'espère que nous pouvons nous réjouir de vivre ensemble. Et pour la suite du culte, alors on va laisser justement les enfants rejoindre leur groupe. Je vais prier pour eux, pour leurs moniteurs et puis pour la suite aussi pour nous ici en haut. Merci Seigneur pour les enfants que tu nous permets d'avoir avec nous, que tu nous confies. C'est une grâce que tu nous fais. Aide-nous à en prendre soin. Et merci parce que toi, tu les considères, tu en prends soin et tu veux les faire grandir à tes côtés. Alors Seigneur, que tu bénisses ce temps que tu leur donnes avec leur moniteur, que tu bénisses leur moniteur aussi. Merci pour leur investissement et qu'ils puissent grandir dans ta présence, dans ta connaissance aussi. Seigneur, que tu conduises aussi la suite du culte et Claude dans la prédication qui va nous amener aussi tout à l'heure ici. Amen. Voilà les enfants, bonne suite de culte. Merci aux moniteurs. Et pour la suite de notre culte, on est dans l'après-Pâques. Qu'est-ce qui se passe dans cet après-Pâques? David nous a lu un passage d'Ésaïe. Effectivement, après-Pâques, on revient un petit peu en arrière. Je vais vous lire un autre passage d'Ésaïe, Ésaïe 11, les versets 1 à 11. Un rameau poussera sur le tronc d'Ésaïe. Un rejeton naîtra de ses racines et portera du fruit. L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui, et cet Esprit lui donnera le discernement, la sagesse, le conseil et la force. Il lui fera connaître l'Éternel et s'attacher à lui. Son plaisir sera d'obéir à l'Éternel. Il ne jugera pas d'après les apparences et n'arbitrera pas d'après des oui-dire. Il jugera les pauvres avec justice et il arbitrera selon le droit en faveur des malheureux du pays. Il frappera la terre de sa parole comme avec un bâton. Le souffle de sa bouche abattra le méchant. Il aura la justice pour ceinture à ses reins et la fidélité pour ceinture à ses hanches. Le loup vivra avec l'agneau. La panthère paîtra aux côtés du chevreau. Le veau et le lionceau et le bœuf à l'engrais seront ensemble, et un petit enfant les mènera au pré. Les vaches et les ours brouteront côte à côte, et leurs petits auront un même gîte. Le lion et le bœuf se nourriront de paille. Le nourrisson s'ébattra sans danger près du nid du cobra, et le tout jeune enfant pourra mettre la main dans l'antre du serpent. On ne commettra plus ni mal ni destruction sur toute l'étendue de la montagne sainte, car la terre sera remplie de la connaissance de l'Éternel, comme les eaux recouvrent le fond des mers. Il adviendra en ce jour-là que le descendant d'Isaïe se dressera comme un étendard pour les peuples, et toutes les nations se tourneront vers lui. Et le lieu où il se tiendra resplendira de gloire. Ce jour-là, le Seigneur interviendra une seconde fois pour libérer le reste de son peuple qui aura subsisté en Assyrie et en Égypte, à Patros et en Éthiopie, à Elam en Babylonie et à Hamat, ainsi que dans les îles et les régions côtières.
Frères et sœurs, à mon tour de vous saluer les uns et les autres. Et toutes les nations se tourneront vers lui. Il y a combien de nations représentées ici? Est-ce que je peux entendre des noms? Des noms de nations?
Portugal.
Colombie. La Suisse.
L'Italie.
Voilà. Vraiment? Oui? Fidji. Alors, d'autres? Qui est-ce qui est représenté ici? D'autres nations? France? Tanzanie? L'île Maurice? Eh oui, les Mauriciens. Afghanistan? L'Angleterre? Ah ben oui, Monsieur Sewell. Indonésie? Et toutes les nations se tourneront vers lui. Vous avez vu, il y a peu de littérature d'une nation de ce monde qui n'est pas centrée sur elle-même. Moi, 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 first. Mais ici, le prophète Ésaïe, il dit toutes les nations. Et moi, je trouve ça juste extraordinaire. Et je pense que si nous retenons ça, c'est déjà quelque chose. Et j'ai oublié une nation? L'Alsace? Non, c'est pas... Ce besoin d'autonomie. Avant de continuer et de faire la lecture du jour qui va dans ce sens, vous l'imaginez bien, j'ai des salutations à vous donner de la part de Marthe Favarger. Elle est très malade. Je l'avais au téléphone hier, elle m'a dit de vous remercier pour le soutien que vous donnerez à Blaise. Alors, c'est assez typique, hein. Quelqu'un est malade, mais il pense à son conjoint. Et moi, je trouve ça extraordinaire. Elle vous salue bien. Sa maladie d'estomac est grave, c'est vrai. Il y a encore d'autres examens qui seront faits la semaine prochaine. Mais c'est bien d'être entouré, et puis nous bénissons aussi Annick et puis le beau-fils Xavier, qui est aussi ici. Et bien entendu aussi Blaise. Une autre nouvelle de quelqu'un qui est là où il souhaitait habiter et puis qui a écrit quantité de livres en langue française pour l'édification de l'Église et qui est décédé, dont l'enterrement sera samedi, c'est Alfred Kuhn. Ça vous dit quelque chose? Certains d'entre vous? C'est un homme qui a vraiment servi pour l'édification et puis qui est auprès de son Seigneur en train de découvrir ce que nous tous, nous avons envie de découvrir aussi, ce que c'est qu'être auprès du Seigneur, avec toutes les dimensions de ce que ça signifie, dans un royaume où il n'y a plus de mort, où il n'y a plus de souffrance, où il y a de la justice, où on vit bien ensemble, toutes les nations réunies. Enfin, laissez-moi vous parler du ciel sur la terre. Le programme d'aujourd'hui, c'est avec le ressuscité, le programme continue. Bon, ils ont pris une claque, les apôtres, hein. Ils étaient dispersés, hein. À part Jean et puis quelques Marie, ils étaient là où on serait nous aussi, hein. Après la crucifixion de leur roi et après le grand coup de blues qu'ils ont pris dans toute l'espérance. Seigneur, nous croyons que. D'accord? C'est un drôle d'esprit. Seigneur, nous croyons que. Ils étaient sincères, mais sincèrement dévastés également. Et voilà qu'il arrive ce phénomène qui est tellement hors du commun, qui est la résurrection corporelle du Christ. Et je lis avec vous le début d'une narration qui est le prolongement de l'évangile selon Luc, qui est le livre des Actes. On devrait le lire ensemble. L'évangile et Actes faisaient partie d'un tout. Mais il écrit les événements de l'Église naissante, l'évangéliste Luc, à un certain Théophile. On ne sait pas trop ce qu'il sait. C'était sans doute quelqu'un qui demandait des comptes et qui était sans doute quelqu'un d'assez riche pour pouvoir intéresser les chronistes comme Luc. Voici ce qu'il est dit dans Actes chapitre 1. Je vous en fais une lecture lente. C'est à eux, les apôtres, dit l'évangéliste Luc, qu'il s'était présenté vivant après sa passion. Ils en avaient eu plus d'une preuve. Alors que pendant 40 jours, il s'était fait voir d'eux, et pas que ça, et les avait entretenus du règne de Dieu. De quoi ils discutaient ? Du règne de Dieu. Au cours d'un repas avec eux, il leur recommanda de ne pas quitter Jérusalem, mais d'y attendre la promesse du Père. Celle, dit-il, que vous avez entendue de ma propre bouche, Jean a bien donné le baptême d'eau, mais vous, c'est dans l'Esprit, l'Esprit Saint, que vous serez immergés ou baptisés d'ici quelques jours. Ils étaient donc réunis et lui avaient posé cette question, « Seigneur, est-ce maintenant le temps où tu vas rétablir le royaume pour Israël ?» Ou à Israël, c'est difficile de traduire juste. « Tu vas rétablir le royaume pour Israël. » Il leur dit, « Vous n'avez pas à connaître les temps et les moments que le Père a fixés de sa propre autorité, mais vous, nous, enfin, c'est marqué vous, allez recevoir une puissance, celle du Saint-Esprit, qui viendra sur vous. Vous serez alors mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Jusqu'à là, la lecture de la parole de Dieu. Si je vous dis le salut, on a assez l'habitude de le penser. On est sauvé par le sang du Christ, par le sacrifice du Christ. Mais si je vous dis que le salut, c'est la même chose que le royaume de Dieu, c'est quoi le royaume de Dieu ? Le royaume de Dieu, on n'a pas très l'habitude, hein, nous, on n'a pas de roi en Suisse. Enfin, on n'a que des rois et des reines en Suisse. En France, on lui a coupé la tête. En Espagne, il y en a encore. En Angleterre aussi, au Luxembourg, en Belgique. Mais le royaume de Dieu, qu'est-ce qui vous vient à l'esprit ? Royaume de Dieu. Pas l'habitude, hein ? C'est quoi ça ? La présence du Christ dans nos vies. Oui, ça c'est où ? Dans nos vies, oui. Dans et par. Hein ? Oui, ça change quelque chose ? Il y a une différence avec le Suisse moyen ? Enfin, le Français moyen, c'est la même chose. Hein ? Ou le Tanzanien moyen ? Ou l'Afghan moyen ? Ou, hein ? Ça change quelque chose. Vraiment ? Il s'est entretenu pendant 40 jours au sujet du règne de Dieu. Quand Dieu est roi, est-ce que c'est bien ? Ou est-ce que ça devient un peu terroriste ? C'est une bonne question, non ? Elle n'est pas d'actualité, celle-là ? Je repose la question. Quand Dieu est roi, est-ce que c'est bien ? ça devient dangereux. C'est pas dangereux. Ça dépend à qui on demande, hein. Ouais. Parce qu'on s'imagine. On s'imagine pas ce qu'il veut, Dieu. Oui. C'est ça? Est-ce que le royaume de Dieu, c'est un endroit où il fait bon vivre pour tout le monde? Il vaut mieux qu'on se dise oui, parce que si on ne l'aime pas, on ne va pas l'atteindre, on ne va pas le chercher. Si on ne l'aime pas, ou si on doute que c'est bien pour tout le monde, on ne va pas le désirer. On va chercher autre chose, ailleurs. Jésus s'entretient du règne de Dieu. Autrement dit, le programme continue. Le règne de Dieu, c'est quand le roi est là, quand le Christ est venu, il proclamait « Voici le royaume de Dieu, repentez-vous, changez de mentalité. » Dieu est à nouveau miséricordieux, clément, il voudrait des réconciliations, il donne le pardon, il élève le faible. Il rabaisse l'arrogant. Et c'est bon ça? Ça dépend, hein, si on est arrogant. Le règne de Dieu est une bonne nouvelle pour tous ceux qui aspirent au fond de leur cœur à un endroit où il fait bon vivre pour tout le monde. On peut l'appeler le ciel si vous voulez, mais en attendant, il n'y a pas de règne de Dieu sans qu'il y ait une terre, sans qu'il y ait une situation, un cœur, oui. Et je reviens à cette image que je vous ai déjà montrée, qui me frappe, qui me plaît, parce que ça montre bien la tension entre ce « déjà, ça a commencé » et le « pas encore », parce que « Seigneur !» Ce monde, il est régi par bien des méchancetés et des égoïsmes encore aujourd'hui. Seigneur, t'es sérieux de m'envoyer moi? T'as pas vu que je t'ai trahi? À la croix, j'étais plus présent. La mission du corps du Christ, c'est-à-dire de l'ensemble des hommes et des femmes qui ont été baptisés dans le Christ, qui ont reçu le Christ, qui ont vécu une nouvelle naissance en découvrant ce royaume de Dieu, eh bien, continue. Au travers de nous. J'aime bien le Christ qui dit « Vous serez mes témoins ». Autrement dit, vous allez continuer ce que j'étais, moi, témoin, quand je suis venu. Ça va continuer au travers de vous. Moi, je trouve ça déjà extraordinaire qu'il ne nous ait pas tout simplement grondé en disant « Moi, je ne vous veux plus, vous m'avez trahi, je vais choisir quelqu'un d'autre ». Je trouve extraordinaire qu'ils nous prennent au sérieux dans notre mission. Et des fois, je dis, Seigneur, t'es sérieux? Tu veux vraiment passer au travers de moi et de nous? Tu sais dans quelle situation je suis? C'est pas l'idéal. Et pourtant, c'est une situation unique. Alors, je reviens aux apôtres, oui. Ceux qui avaient avant peur acceptent de témoigner de l'espérance, alors que ça semblait être contre toute espérance. Ils refusent d'en rester aux critiques et aux soupçons. C'est ça ce qui s'est passé quand le Christ ressuscité s'est entretenu avec eux et que l'Esprit Saint est venu à la Pentecôte. Maintenant, j'aimerais vous montrer quelque chose. Quand le Christ est venu, il est certes venu pour le pardon des péchés. J'ai fait un dessin. Quand moi, je fais un dessin, on peut faire mieux. Hein. Est-ce que vous avez vu que ça ne représente pas un ver de terre, ça représente une personne? Le croyant, vous voyez ça? Il y a une tête, et puis il est en position d'adoration, d'accord? Presque écrasé un peu. Hein. Et puis, il a vu Jésus. Aimé jusqu'au bout, comme personne n'a jamais aimé. Il a vu Jésus guérir des malades. Il a vu Jésus annoncer le pardon des péchés. Annoncer la justice aimante. L'amour de tout le monde, y compris les ennemis. La vérité, le respect de l'intégrité de tout autre. Il a vu Jésus remonter aussi les bretelles à des religieux qui croyaient qu'au nom de la Bible, ils pouvaient dire n'importe quoi. Et il a vu Jésus prendre sa croix. Et c'est des croyants, et on le sait, et lui seul a accompli à ma place, à la croix. Il a accompli lui seul la volonté de Dieu. Mais moi, Seigneur, est-ce que tu es sérieux quand tu me demandes le même programme ? Parce que finalement, à la croix, il a changé beaucoup de choses, alors qu'on croyait que c'était un échec. Il était vulnérable, il a utilisé juste la seule force de la parole du Père. Par cette force-là, il a changé des cœurs. Si je reviens à ce que nous avons vu dans le texte précédemment, là, il est dit, « Vous allez recevoir une puissance, celle du Saint-Esprit qui viendra sur vous, vous serez alors mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Si je reviens à ce qu'on peut comprendre, c'est la mission continue. Le programme du royaume de Dieu et du salut continue. Ça continue. Quel que soit ton âge et ta situation, et ta santé, et ton degré d'éducation, et ta langue, et ta beauté, et je passe, et ta nationalité, le programme continue. Le programme, c'est lequel ? C'est un programme de vulnérabilité. Le témoignage, c'est la seule force d'une parole bienveillante. Vous serez mes, dit Jésus, témoins. Ça montre que ce royaume de Dieu, parce que c'est toujours de ça dont il est question, son extension ne se fera avec aucune autre arme que l'amour des situations dans lesquelles nous sommes et au travers de la bienveillance qui prend la forme d'un service, d'une attitude, mais aussi de parole. Ici, il est dit, vous serez témoin. Un témoin, c'est quoi ? Ça se passe normalement au tribunal. On appelle ça témoignage quand l'un de nous parle de son expérience avec le Seigneur, mais le témoignage, c'est quand on est en butte avec des hostilités. Et on atteste de quoi ? On atteste du fait que Jésus est le souverain envoyé pour sauver le monde. Vous serez mes témoins, les témoins de l'enseignement de Jésus. On ne témoigne pas sans l'enseignement de Jésus. Le témoignage du Dieu qui intervient en Jésus. Le témoignage d'une vie qui se donne pour tout le monde inconditionnellement de la race et de la langue, c'est Jésus. Et le témoin que lui, il est ressuscité d'entre les morts. À un moment donné, il est bon, même pour un grand-père, une grand-mère, une tante, une grande-tante, ou peu importe, ou un voisin aîné, qu'il dise non seulement la bienveillance qu'il a vécue, qu'elle a vécue pendant sa vie, mais à un moment qu'il dise, tu sais, ça ne vient pas de moi, ça vient du Seigneur qui nous a aimés le premier. Une simple phrase est un témoignage. Je témoigne, ça vient de lui, la vie vient de lui. Parce que le petit enfant, il va croire que ça vient de votre qualité morale, la qualité de votre être, si on ne dit pas la source de la richesse qui est en nous. Ça, c'est une manière de dire, si tu es timide et que tu es réservé pour témoigner de Jésus, à un moment donné, prononce le fait que ça ne vient pas de toi, ça vient du Christ qui nous a aimés. Ensuite, une condition. Et ça, ça va nous aider à nous tous, qui en regardant en nous-mêmes, nous disons, mais t'es sérieux, Seigneur, t'as vu un peu ? J'ai des violences intérieures, j'ai des convoitises, j'ai de la jalousie, j'ai des fois de la colère. Et du coup, on se regarde tellement soi-même qu'on n'est plus témoin. C'est la raison pour laquelle le Seigneur dit, je vous enverrai ma mentalité. Pardon, mon esprit, c'est la même chose. Je vous enverrai ma manière de voir, la puissance qui, quand vous voyez de cette manière, vous le ferez parce que vous comprendrez que c'est avantageux pour le monde et c'est son salut à tout point de vue et économique et relationnel de suivre le programme de Jésus. Quand nous disons Jésus est le sauveur du monde, c'est vrai sur tous les plans. C'est pas que vrai au niveau du pardon. Et l'objectif, c'est le monde. Vous avez vu, à un moment donné, les apôtres disent « c'est maintenant que tu nous feras de nouveau les chouchous du monde ?» Regardez, c'est la question. Et puis le Seigneur dit « c'est pas à vous de savoir les temps et les moments ou comment ça se passera pour cette entité locale qui est Israël. C'est pas à vous. Moi, je vous dis, quelque chose qui est clair. Vous serez mes témoins depuis là où vous êtes et jusqu'au bout du monde. Je veux dire, c'est tellement clair. La réponse de Jésus n'est pas un autre chapitre. Il traite l'idée que « moi first ». Jésus dit « non, pas moi first ». Le monde est ce que le Seigneur veut atteindre. L'objectif est le monde en commençant où tu es. Alors, j'entends comme le Seigneur qui nous dit, et il nous rappelle ce matin le ressuscité qui se promène au milieu de nous, parce que finalement, un culte, c'est que ça. C'est le Christ vivant au milieu de son peuple. Si le Christ n'est pas vivant au milieu de son peuple, c'est même plus un culte. Ou alors, c'est un culte païen. Et il nous dit, un jour, je t'ai rencontré. Un jour, tu avais la flamme du Seigneur. Ou un jour, tu ne l'avais pas encore. Mais aujourd'hui, il nous dit à nous tous, accepte que le Seigneur, dans sa grâce, veut passer au travers de toi dans la situation où tu en es. Où j'en suis, parce que je ne m'exclus pas. Et il nous dit, mais en toi-même, tu n'as pas les ressources pour ça. Je vais t'envoyer ma mentalité. Je vais t'envoyer ma manière de voir. Ça surviendra sur toi. C'est une puissance pour être témoin. Le Saint-Esprit n'est pas juste un esprit religieux capricieux. Vous êtes d'accord avec ça? Il ne nous fait pas des trucs supernaturels. Le Saint-Esprit, je ne suis pas contre, hein. Le Saint-Esprit est avant tout des gens qui font de nous des gens aimants et qui laissent propager ce règne qui est bon pour tout le monde dans les situations familiales, de voisinage, d'entreprise, d'église, de pays. Dieu se sert de personnes. Et j'ai une bonne nouvelle, sauf pour les parfaits. Dieu se sert de personnes imparfaites. Il y en a d'autres que moi ici qui sont imparfaits. Tiens, j'ai des frères et des sœurs. Et les autres? Parfait. Alors, des fois, on se dit, je suis devant ma mission. Seigneur, vraiment, t'es sérieux? T'es sérieux, Seigneur? Je suis là, à pic. Je me dis, mais je l'entends, mais moi, je préfère, Seigneur, juste vivre une vie juste à peu près morale. Oh, pas très dégueulasse, quoi. Enfin. Et le Seigneur nous dit un programme qu'on n'aime pas très entendre, mais qui est présent dans tous les évangiles. Occasionnellement, suivre le Seigneur peut être inconfortable, comme la situation du Christ à la croix. D'accord? Je n'ai pas dit toujours, hein. C'est pas parce qu'il le veut, c'est parce qu'on le fait subir comme conséquence de son attitude. Si le Christ a été crucifié, c'est qu'il a mis son programme du sermon sur la montagne, en l'occurrence, de l'amour de tous en œuvre. C'est pour ça qu'il a été crucifié. S'il n'avait pas mis son programme en œuvre, il n'aurait pas été crucifié. Eh bien, il y a possiblement un prix à payer. Oui, je rappelle ici, par exemple, ce que dit l'évangéliste Luc au chapitre 14. Si quelqu'un vient à moi sans me préférer, il y a donc une histoire de préférence et de hiérarchie. Il ne dit pas de ne pas aimer sa femme. Attention, messieurs! Il est dit, sans me préférer à son père, à sa mère, à sa femme, ses enfants, ses frères, ses sœurs, et même sa propre vie. Autrement dit, le Seigneur nous dit, fais attention, il y a une hiérarchie des choses, mets les choses prioritaires à la bonne place. Et les choses prioritaires ici, c'est son programme qui continue. J'aime Jésus à cause de son programme. Je ne peux pas dire « j'aime Jésus sans aimer son programme ». C'est un des grands péchés de l'Église, de la chrétienté de beaucoup de siècles, d'avoir adoré Jésus dans le ciel, mais comme un vaudour, sans le suivre. Vous comprenez ça? C'est un des grands péchés. Et ça ne doit pas être un des péchés de l'Église évangélique. D'adorer Jésus sans le suivre. Adorer Jésus en le suivant est la juste adoration des cœurs, en esprit et en vérité, dans la mentalité du royaume. Ici, il est dit, celui qui ne porte pas sa croix, alors la croix, ce n'est pas quand on a mal aux dents. C'est déjà une croix des fois, hein, ça dépend. Hein. La croix, c'est le résultat prévisible de ce qui arrive quand on aime la vérité et le prochain. C'est prévisible qu'il y aura des buts, des hostilités, des gens qui ne seront pas d'accord. Mais toi, je te fais témoin de Jésus. Celui qui ne porte pas le résultat prévisible de ce qui arrive quand on aime Dieu de tout son cœur et le prochain. D'accord ? La croix. C'est pas autre chose. Et ne marche pas à ma suite, ne peut pas être mon disciple. Nous le rappelons aujourd'hui parce que ça fait partie d'un programme. Tu seras mon témoin, c'est pas seulement le témoin de Jésus tout seul, mais de Jésus et de son programme. Alors, il y a différentes manières de s'accommoder. Ma deuxième tentation, après la première, c'est-à-dire qui consistait que d'adorer Jésus, mais pas de le suivre, la deuxième tentation, c'est de dire, oui, d'accord, Jésus, mais on va descendre la barre, de telle sorte que ce soit atteignable. Le royaume de Dieu, d'accord, mais ma famille d'abord. Ou bien, on pourra dire, aimer tout le monde, d'accord, mais c'est moi qui choisis qui. Vous comprenez ? Ou bien tu diras la vérité toujours, oui, mais de temps en temps, j'ai quand même des avantages à tordre la vérité, la corruption, d'accord ? Ou bien, vous voulez encore des exemples ? Fidèle à ma femme, d'accord, mais ça ne m'empêche pas dans mon scénario mental de coucher avec les femmes des prochains. Enfin, les dames, vous devez faire tout un changement de mentalité quand je vous parle. Ouais. Vous saisissez ? Les programmes du royaume, c'est bon pour tout le monde dans la durée. Et le Seigneur s'intéresse autant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Donc, mettre au niveau les intentions de Jésus, c'est se tromper de programme. Par exemple, de réduire à nos petits espaces à nous, ma dénomination, ou à Israël, ma famille, mon pays, mon église, ma race, ma langue, mon âge, mon réseau. Les réseaux, c'est pour les plus jeunes. Mon réseau. First. Et là, il y a toute une conversion mentale. Quand j'ai reçu Jésus, je devais avoir dans les 17 ans, 18 ans. C'était un grand chamboulement. Mais ce qui m'a plu, ce qui m'a convaincu, c'était certes l'annonce de l'Évangile, mais c'était aussi de voir des aînés vivre l'Évangile discrètement, fortement, aimer tout le monde, accueillir, pas juste leur famille, mais accueillir une table. Ça m'a parlé. Je me suis dit, c'est la salut du monde qui est en route. Le royaume de Dieu continue. Et il n'y a pas de raison qu'il s'arrête là où on en est, quelles que soient les situations où on est. Nous sommes des vecteurs du royaume de Dieu. C'est la mission qu'il nous donne. Et exclure les autres ne fait pas partie du programme. Alors certes, on ne peut pas aimer tout le monde, mais on peut certainement aimer là où ça commence, c'est-à-dire chez soi. Et là, ce n'est pas tout le monde, c'est le voisin. C'est la prochaine personne que l'on va voir. Et cette visée de tout le monde, et je crois qu'elle est importante, depuis la Genèse, le Seigneur a choisi une nation pour être maison témoin pour les nations du monde. C'est tellement évident. On trouve également dans le livre d'Ésaïe ces visions extraordinaires qu'on a lues, et ce n'est pas que de la poésie. Le Christ, il a pris ça au sérieux. Et le livre de Daniel le dit aussi, « Je vis un fils de l'homme venir et son règne n'aura pas de fin. » Et tout le monde l'adorera, on le retrouve. Alors, j'arrive vers la conclusion parce que c'est pas l'essentiel est dit. Qu'est-ce que préconise Jésus ? Avec lui, avec l'Esprit, nous sommes envoyés par Jésus. Est-ce que tu entends le Seigneur qui te dit « J'aimerais que ça passe par toi. J'aimerais que ça passe par vous. » Quelle que soit la situation et l'âge. Vous voyez, vous vous voyez là, en train d'accomplir quelque chose, mais que vous ne faites pas de vos propres forces. Je vous enverrai une puissance, l'esprit, la mentalité de Jésus. Et nous autres sommes dans ce temps, comme les apôtres. Nous avons peut-être goûté que le Seigneur est bon, mais nous pouvons en tout cas rester dans la dépendance de l'Esprit. Et même quand vous soupirez, « Seigneur, j'ai besoin de toi », c'est l'Esprit Saint qui vient à notre secours. Alors je ne sais pas dans quelle situation vous êtes, à quoi vous pensez, mais le Seigneur voudrait dans cette situation aussi avancer. Alors arrive quelque chose comme l'extraordinaire dont il est question dans Matthieu chapitre 5. Et tout à la fin du chapitre 5, au début du sermon sur la montagne, « Si vous saluez seulement vos amis, même les païens en font autant, mais moi je vous dis, saluez. » Ça veut dire souhaiter le salut, souhaiter le bien à tout le monde. Le Seigneur mettra certainement sur notre route cet moment dans la semaine qui vient où le Seigneur voudra étendre son royaume par une simple salutation. J'ai travaillé un temps parmi les populations turques et maghrébines d'une ville française et j'ai vu une chose, c'est que quand on les côtoie et qu'on leur dit bonjour dans la route, sur la route, ça fait des miracles. Alors, en résumé, avant de lire une poésie qui peut rassembler un petit peu nos sentiments et nos situations, ce que Jésus a lancé, c'est un levain, c'est un germe, c'est son programme. Et il continue au travers de nous, l'Église est là pour manifester le mieux possible des signes d'un monde qui est guéri. Un monde qui est guéri, c'est l'équivalent de ce que je comprends sous royaume de Dieu. Le royaume n'est pas qu'un événement futur. Il est aussi un événement futur, mais il a commencé. Le débarquement a eu lieu. La victoire totale n'est pas encore là. Mais le débarquement a eu lieu, et dans nos situations, le Seigneur intervient. Et quand je regarde le vécu des églises, je vois comme ici qu'il y a différentes nations, différentes manières de voir aussi, qui sont réconciliées sous un chef, le Christ. Eh bien, dans l'église primitive, vous aviez des gens qui étaient des infréquentés, des infréquentables. Il y avait des gens d'origine grecque et des gens d'origine juive qui devaient faire un peuple nouveau. On ne s'imagine pas la force qu'il faut par le Saint-Esprit pour que ces gens-là, ils puissent accepter de chanter les mêmes chants. Il a tué la haine à la croix et ce programme d'amour continue. Et c'est ce que le Seigneur a voulu viser dans ce rassemblement des nations. Je vous montre une carte postale. Cette carte postale, mon grand-papa alsacien l'avait avec lui à la Première Guerre mondiale. Ça se voit. Il était au Balkan, il était là, il était Croix-Rouge. Il ramassait les gens. Ils essayaient de les amasser un petit peu entiers après les bombardements et tout ça. Et il avait cette carte postale. Ça vous rappelle quelque chose? La lecture de Ésaïe 11. Le programme a commencé dans la dureté des fois de nos situations. Que le Seigneur nous accorde sa paix et l'enrôlement nécessaire en mettant les bonnes priorités. Je vous lis quelque chose qui vient du 15e siècle. Attention, ce n'est pas vieillot. Seigneur, tu nous as appelés. Vous avez entendu? L'inquiétude le prouve qui nous saisit lorsque nous entendons ta parole. Tu connais notre faiblesse. Tu sais à quel point le découragement nous guette. C'est pas vrai? Combien nos pas sont craintifs. Mais tu nous as appelés. C'est là-dessus que nous comptons. Agis en nous si telle est ta volonté. Amen. Use de nous et rends-nous utilisables. Amen. Nous ignorons si tout ce que nous faisons en ton nom à quelques résultats. Mais l'outil ne doit pas s'inquiéter du sens de l'œuvre. Nous sommes tes outils. Tu nous as pris dans ta main. Utilise-nous. Amen.
suite à tout ce qui a été entendu, que nous puissions aussi prendre un temps maintenant de prière. Si vous voulez le faire à haute voix, ne vous gênez pas. Si ça peut être audible pour tout le monde, c'est encore plus profitable. Ou vous pouvez le faire aussi dans votre cœur, mais qu'on puisse intérioriser ce qu'on a reçu et demander à Dieu surtout de nous permettre de le vivre et de le mettre en pratique. Je ne sais pas si vous avez en tête toujours ces dessins avec ce but, où est-ce qu'on va le placer? Est-ce qu'on va justement laisser notre barre un petit peu au milieu, la descendre? Ou est-ce qu'on laisse justement Jésus nous porter, nous conduire, nous relever? Alors qu'on puisse prendre ce temps de prière, vous êtes tous invités à le faire librement, si possible des petites prières. Et je terminerai ce temps. Seigneur, je ne suis pas toujours à l'aise de témoigner dans bien des situations, que ce soit auprès de collègues, que ce soit auprès de certains amis. Mais c'est vrai que tu me permettes de dire ou de placer à certains moments que, effectivement, c'est toi qui travaille ma vie, c'est toi qui change mon cœur et qui me permet d'avancer. Que tu nous aides en communauté aussi à pouvoir le faire ensemble, à nous relever les uns les autres, à nous fortifier les uns les autres et à témoigner autour de Mérin, dans notre voisinage ici, dans notre voisinage plus large aussi. Amen. Je vous invite à vous lever pour chanter « C'est par la grâce ». C'est par la grâce que nous venons, que nous sommes invités à partager ce repas que nous allons prendre ensemble. Mais il y a aussi justement des implications, on en parlait tout à l'heure, il y a une mise en mouvement. Et je vais reprendre juste quelques versets de Luc 22 par rapport à cette Pâque. Jésus, le jour de la fête des pains sans levain, où l'on devait tuer l'agneau de la Pâque, arriva. Jésus envoya Pierre et Jean en leur disant « Allez nous préparer le repas de la Pâque. » Alors, ils doivent se mettre en route. Et puis alors, peut-être que c'était normal pour eux d'aller débarquer chez quelqu'un, de prendre un âne comme ça. Je ne sais pas. Mais ils ont quand même dû faire quelque chose. Et finalement, ce n'était pas si simple que ça à préparer cette Pâque. C'était peut-être un peu moins traditionnel que d'habitude. Et ils partirent donc, trouvèrent tout comme Jésus le leur avait dit, et préparèrent le repas de la Pâque. Alors ce n'est pas un rituel magique, mais un engagement à faire ce que Jésus nous demande, à suivre ses instructions, alors que nous puissions recevoir cette grâce, mais qu'elle soit notre engagement à la suite du Christ pour l'ensemble de notre vie. Alors, je vais lire un petit peu plus loin dans Luc, à partir du verset 14, enfin juste la suite, l'institution. Quand ce fut l'heure, Jésus se mit à table avec ses apôtres. Il leur dit, « J'ai vivement désiré célébrer cette Pâque avec vous avant de souffrir. En effet, je vous le déclare, je ne la mangerai plus jusqu'au jour où tout ce qu'elle signifie sera accompli dans le royaume de Dieu. » Il prit une coupe, prononça la prière de reconnaissance et dit, « Prenez cette coupe et partagez-la entre vous. Car je vous le déclare, dorénavant, je ne boirai plus du fruit de la vigne jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit établi. » Ensuite, il prit du pain, remercia Dieu, le partagea en morceaux qu'il leur donna en disant, « Ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites cela en souvenir de moi. » Cette première coupe était le début du repas. À la suite du repas, il reprend encore une fois la coupe pour, en disant « Ceci est la coupe de la nouvelle alliance conclue par mon sang qui va être versée pour vous. » Et dans ce texte, à deux reprises, Jésus dit « Je ne la mangerai plus jusqu'à ce qu'elle soit accomplie justement dans le royaume de Dieu. » Alors nous voulons nous souvenir de la mort du Christ, de sa souffrance pour nous, mais nous voulons aussi nous réjouir de cette invitation, de cette promesse de partager ce repas dans son royaume bientôt.
Nous prions le Seigneur. Nous te remercions, Seigneur, de nous avoir accueillis à ta table et de nous en faire bénéficier pour les forces de notre vie. Nous te remercions, Seigneur, pour la joie symbolisée par ce vin, l'anticipation d'une terre où la justice habite et où les produits sont coulent pour tout le monde. Nous te remercions, Seigneur, pour le sang que tu as versé qui rend possible la vie nouvelle. Nous te remercions, Seigneur, de tout notre cœur pour le don de ta vie qui a été rompu pour que nous soyons une unité nouvelle, gens de toute nation. Seigneur Jésus, gloire à toi. Amen.
Et le pain est passé avec les coupes. Au centre, c'est les coupes de couleur avec du jus de raisin, autour avec du vin. Si vous désirez communier avec la coupe, vous faites signe et on passera vers vous. Juste après, Jésus dit : Vous êtes restés fidèlement avec moi au cours de mes épreuves. Il s'est adressé même à Pierre qui a renié Jésus un petit peu auparavant. C'est pourquoi, comme mon Père m'a donné le royaume, je vous le donne à mon tour. Vous mangerez et vous boirez à ma table dans mon royaume, et vous siégerez sur des trônes pour gouverner les 12 tribus d'Israël. Merci notre Dieu de cette promesse que tu nous fais, que bientôt nous pourrons partager ce pain, ce vin à ta table avec toi dans ton royaume, que ton royaume sera accompli et que nous serons avec toi. Amen.
Amen.
Dans ce chemin entre Pâques et la Pentecôte, en passant par l'Ascension, que nous puissions nous réjouir aussi de son Esprit promis, sa présence avec nous dans notre quotidien, qui nous guide, qui nous donne de nouvelles forces, et que son Esprit nous conduise dans tous les domaines de nos vies, également dans la manière de gérer nos finances. Alors c'est justement le temps de l'offrande. Et je vous invite à vous lever, on va chanter ce chant qui dit justement « Avec ton esprit ». Merci Seigneur notre Dieu de ton esprit que tu nous promets. Et c'est vrai que ce n'est pas seulement pour vivre des choses magiques que tu nous donnes ton esprit, mais pour changer nos cœurs, transformer nos pensées, pour avoir tes pensées. Et que tu nous bénisses aussi au travers de ça, et là, dans la manière aussi dont on gère notre argent, dont on gère nos finances, et qu'on puisse te rendre ce qu'on reçoit de manière qui te soit utile et qui te rende gloire, Seigneur. Alors que tu bénisses cet argent aussi, que tu nous bénisses dans notre relation à l'argent et que cet argent puisse porter du fruit. Amen. Vous pouvez reprendre place, on arrive presque à la fin de ce temps de culte. Il y a les annonces. Je laisse Michel.
Voilà, les annonces du jour. Vous rappelez que le programme de l'Église, le mémo, est disponible non seulement à la sortie, c'est un papier orange que vous trouverez sur le présentoir en sortant à gauche, mais également sur le site internet, dans l'espace membre, et vous voyez là le chemin pour y parvenir. Voilà, jeudi 12 avril, un colloque extraordinaire, puisque c'est un jeudi, mais aussi parce que c'est le thème particulier de la rénovation de la chapelle qui sera soumis à la discussion et également au vote, avec la question qui figure là sur le flyer qui vous sera posée et à laquelle vous devrez répondre et vous pourrez répondre. Si vous avez reçu des informations au sujet de ce projet de rénovation de chapelle, si vous désirez avoir des compléments d'informations, il y a plusieurs membres de l'équipe de rénovation chapelle, en particulier David Jeunecamp, Raymond Félix, voilà, et Michel Cretonnier, qui sont disponibles, et Laurent Cretonnier, ouais, bon, très bien. Alors, 1, 2, 3, 4, ils sont 4 pour répondre aux questions. 5 alors, et Patrick, pour répondre aux questions que vous pourriez poser. Dimanche 15 avril, première répétition pour le concert collaboratif avec le groupe de jeunes, 14h-17h, dimanche prochain. Mardi 17 avril, le troisième volet du deuxième temps d'études bibliques au sujet du culte, le temps sacré, revivre l'histoire du Dieu qui sauve, animé par David Porter. Et mercredi 18 avril, le groupe de jeunes nous invite à participer à une rencontre, une soirée avec eux, dès 19h30, juste en dessous, là, dans la salle du groupe de jeunes. Vous êtes les bienvenus, cordialement invités. Voilà, mercredi 24 avril, la semaine d'après, une rencontre du fil d'argent, ici même, à 14h30, Israël, avec Guy Gentison. Plus d'informations auprès de Marianne et Reynold Pfund. Le mercredi 25 avril, une conférence à l'église évangélique de Cologny sur le thème « Qu'est-ce que les prophéties de la Bible ont à nous dire aujourd'hui ?» Professeur Rodrigo de Souza, qui est professeur à Aix-en-Provence, faculté Jean Calvin d'Aix-en-Provence. Et 30 objets trouvés sont exposés à la sortie. Vous en avez un petit choix ici. Voilà, si vous avez oublié votre chapeau d'été et que l'été approche, vous pourrez le retrouver, même que votre sac à main ou peut-être votre doudou. Voilà, vous pouvez les retrouver tout à l'heure. Et samedi 26 mai, un mariage en perspective. Plus d'informations, je crois, sur le tableau à l'extérieur. C'est juste le tableau d'affichage. Plus d'informations.
Vous savez que la grâce nous est faite de prolonger le culte avec le repas communautaire tout à l'heure. Même si vous n'avez pas de préparation, on est prêt à partager nos pommes de terre, hein, et autres. C'est une dimension un peu festive. Également, vous savez qu'on fête le 50e anniversaire de l'assassinat, en fait, de Martin Luther King. Il y a à la salle d'exposition à Saint-Genis-Pouilly, c'est à l'étranger là. C'est un peuple loin de l'autre côté de la frontière. C'est une belle ville, petite ville. Eh bien, il y a là des conférences qui seront données le 12 avril de Serge Mola, qui est un pasteur spécialisé dans la connaissance du témoignage de Martin Luther King. Martin Luther King, rêveur ou prophète du XXe siècle. Il y a également une exposition du 10 au 15 avril. Profitez-en. On a la chance, si on l'organise, c'est tout un bastringue. Et il l'organise juste à côté, on peut en profiter également. Il y a quelques flyers comme ceci à la sortie. Servez-vous. Il y a aussi une grande affiche. Avec le Seigneur, c'est beau la vie. Je vous propose que nous prions ensemble pour recevoir la bénédiction. Le Christ nous dit « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des apprentis de mes voies. Et voici, dit le Seigneur, je suis avec vous tous les jours, jusqu'au but du monde. Allons dans sa paix et dans sa joie. Amen. » Bon dimanche aux uns et aux autres et merci à mes collègues qui sont intervenus dans le cadre du culte pour la louange et pour la présidence.